que ve shooting de
Gerard. Digo de Radio France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde pour les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de RFI. Ce soir, avec nous pour la rédaction en espagnol, Asbel López.
Buenas tardes, Philippe.
Ben oui, bonsoir à vous. Pizemam de la rédaction cambodgienne.
Sosday, Philippe.
Et Silvano Manez de la rédaction brésilienne.
Buenas noches.
Et bien bonsoir à vous trois. Ce sont près de 400 000 Rohingyas qui à ce jour ont trouvé refuge au Bangladesh. Ces Birmans, musulmans, fuient les persécutions des soldats bouddhistes et ils trouvent donc refuge dans ce grand pays musulman de 160 millions d'habitants qu'est le Bangladesh. C'est un drame humanitaire, en plus des exactions qu'il y a pu y avoir. 80 villages de Rohingyas ont été incendiés dans l'état de Rakhine. Les ONG et certains responsables de l'ONU parlent d'une opération planifiée de nettoyage ethnique orchestrée par les autorités birmanes. Pizemam, comment une telle violence raciale est imaginable dans un pays bouddhiste tel que la Birmanie ?
Oui, Philippe, c'est une question très très complexe du point de vue ethnopolitique. Il faut rappeler que cette discrimination envers les musulmans Rohingyas en Birmanie ne date pas d'hier, mais cela a pris l'ampleur depuis ces dernières années avec la montée du bouddhisme radical dans ce pays. La Birmanie est un vaste pays avec officiellement 135 groupes ethniques différents. Selon la loi sur la citoyenneté en 1982, les Rohingyas ne sont pas considérés comme un ethnie parmi ces 135 ethnies qui peuplent la Birmanie. Dans ce sens, les Rohingyas sont des apatrides et sont considérés comme des immigrés illégaux sur le sol birman.
L'armée birmane a donc chassé ces hommes et ces femmes. Or, le pouvoir est détenu par une prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Asbel López, elle refuse de s'exprimer publiquement. Mais elle répond malgré tout aux attaques.
Et il y a beaucoup d'attaques en effet. Je tiens à préciser, Philippe, par contre, que je n'ai pas fait une recherche exhaustive sur cette polémique dans la presse en espagnol. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait toujours des défenseurs de la prix Nobel birmane, mais ils se font rares ces jours-ci. La plupart des papiers que j'ai lus sont très critiques vis-à-vis d'elle. Aung San Suu Kyi irresponsable. Voilà le titre de la tribune du politologue Sami Nahir publié par El País. Dans ce journal espagnol, Nahir affirme qu'elle est devenue une fidèle alliée des dictateurs birmanes. Selon Nahir, l'inspiratrice des droits de l'homme est complice d'un petit génocide contre la minorité ethnique des Rohingyas. Elle n'est plus partie de la solution, mais du problème des droits de l'homme en Birmanie, conclut Sami Nahir.
Y a-t-il également des critiques à l'encontre des militaires birmans qui s'occupent de la basse besogne ?
Ils ne sont pas légion. Les condamnations pleuvent sur la prix Nobel de paix birmane, mais très peu s'attardent sur le rôle des militaires. Or, ce sont eux qui visent les communautés Rohingyas. Elle n'a aucun pouvoir sur les militaires. N'empêche, un éditorialiste de La Nation se montre très dur vis-à-vis de ce qu'il appelle le silence étourdissant d'Aung San Suu Kyi. La Nation, c'est un des grands journaux de l'Argentine. Jaime Darenblum explique qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix grâce à sa ferme position militaire. Mais aujourd'hui, il a perdu de son lustre à cause de son sépulcral mutisme à propos du martyr des Rohingyas.
Et Asbel López, c'est une actualité très médiatisée.
En effet, d'ailleurs, c'est ce que nous a dit un expert que nous avons interviewé sur notre antenne. Il s'agit de l'espagnol Daniel Goma, spécialiste de l'Asie du Sud-Est à l'Université de Cantabria.
Et elle s'est vue critiquée par d'autres prix Nobel et par d'autres pays qui questionnent la politique du gouvernement birman envers cette minorité. Es incómoda porque desde el exterior no se entiende y desde el interior es difícil maniobrar.
Daniel Goma rappelle que Aung San Suu Kyi a été critiquée par d'autres prix Nobel et surtout que sa situation est très délicate. À l'extérieur, personne ne comprend sa position. À l'intérieur de son pays, il a très peu de marge de manœuvre. Et je vous rappelle, Philippe, qu'en Colombie, un prix Nobel de la paix, le président Juan Manuel Santos, a utilisé son prix pour faire passer les accords de paix de son gouvernement avec les FARC. Et cela à un moment très difficile. En effet, c'était quand il a été battu aux urnes lors de son référendum. Les gens ont dit non par une courte majorité. Et lui, il a fait des changements cosmétiques aux accords et il a continué de l'avant. Santos a très bien exploité sa bonne image internationale grâce au prix Nobel pour imposer un accord de paix qui avait été rejeté aux urnes.
Alors que pour Aung San Suu Kyi, eh bien, on peut dire qu'elle dilapide ce capital de bonne image, en tout cas, tant qu'elle ne se sera pas exprimée officiellement à l'ONU, comme certains le lui demandent. En tout cas, de crainte que la crise humanitaire des réfugiés fuyant la Birmanie bouddhiste n'entraîne de représailles, eh bien, le Bangladesh a mis en place aujourd'hui une protection des temples bouddhistes, notamment dans le sud-est du pays. Et à la rédaction brésilienne, Silvano Mendes, vous êtes intéressé à la dimension humanitaire, justement, de cet exode du côté du Bangladesh, où les Rohingyas s'entassent dans des camps de fortune.
Oui, tout à fait, parce que total, si l'on compte les réfugiés arrivés pendant les années précédentes, près d'un demi-million de membres de cette minorité musulmane campent actuellement au Bangladesh. Et les quelques organisations humanitaires présentes n'arrivent même pas à fournir de l'eau potable à tous, et les conditions d'hygiène sont de plus en plus difficiles, donc on craint l'émergence d'épidémies sur place, surtout qu'on est en pleine saison des pluies. La première ministre de Bangladesh, Sheikh Hasina, dit clairement que l'arrivée de cette minorité est un véritable fardeau pour son pays. Le Bangladesh, d'ailleurs, a d'abord essayer de repousser les réfugiés vers la Birmanie, mais Dhaka semble avoir abandonné l'idée de bloquer leur arrivée.
Et que font les soldats du Bangladesh? Quels sont les ordres qui leur sont donnés maintenant?
Alors, maintenant, l'armée du Bangladesh va être mobilisée pour faciliter justement l'arrivée de la distribution de l'aide humanitaire internationale. Cette décision, prise jeudi par le gouvernement de Dhaka, répond aux critiques sur la manière chaotique dont est distribuée l'aide dans les immenses camps de réfugiés. Mais ce qui inquiète le plus en ce moment, c'est que depuis ce vendredi, on commence à avoir des manifestations plutôt violentes en faveur de cette minorité, aussi du côté de Bangladesh. Selon la police, plus de 15 000 personnes ont manifesté ce vendredi. Ils dénoncent la répression des forces de sécurité birmanes et critiquent aussi le manque d'efficacité des efforts internationaux pour protéger cette minorité. Il y a même des manifestants qui appellent le gouvernement du Bangladesh à entrer en guerre contre la Birmanie pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de génocide. Je rappelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que même l'ONU a déjà parlé d'un exemple classique du nettoyage ethnique.
Pizemam, je reviens vers vous concernant l'histoire de ces Rohingyas et leur présence dans cette partie de la Birmanie, d'où ils sont donc chassés aujourd'hui. Leur présence date depuis plusieurs siècles.
Oui, Philippe, certains historiens avancent que les Rohingyas sont des descendants de commerçants et de soldats arabes, mongols, turcs, bengalis, et convertis à l'islam au XIVe siècle. Mais les Birmans, l'ethnie dominante du pays, a toujours nié. Selon la propagande officielle, les Rohingyas sont arrivés dans l'état d'Arakan vers la fin du XIXe siècle en vertu des politiques coloniales des Britanniques. Mais ce n'est qu'en 1962, quand le général Nevin a fait le coup d'état et instauré un régime militaire, que cette propagande anti-musulman a pris forme d'une cause nationale. Le régime a lancé des propagandes racistes dans les écoles et dans les médias avant de mener des opérations de purification.
Dans ce pays, de 90% à la population est bouddhiste, certains moines, généralement très vénérés par les Birmans, ont contribué à cette propagation de la haine anti-musulmane. On pense notamment à celui qu'on appelle le vénérable Viratu et que certains médias surnomment le Ben Laden birman.
Oui, Philippe, pour le peuple birman, généralement, peu instruit et très croyant, les paroles émanant d'un moine est sacrée. Le moine Viratu a la tête de son mouvement 969 qui prêchait cette haine envers les musulmans depuis des années déjà. C'est ce mouvement qui a enclenché les émeutes en 2012. D'après les ONG, les opérations et les exactions orchestrées par ce mouvement ne peuvent pas se faire sans la complicité de la part du régime militaire.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans Accent du Monde sur cette situation qui va malheureusement perdurer, une crise humanitaire et peut-être même des tensions militaires entre la Birmanie et le Bangladesh. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Après le passage de l'ouragan Irma, plus $1,5 million de logements sont encore privés d'électricité en Floride. En France, le déblaiement continue dans les ruines de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Tout à l'heure, l'assurance retraite a débloqué un fonds exceptionnel de soutien d'1 million d'euros à destination des retraités sinistrés de ces deux îles. Irma a aussi fait des dégâts en Haïti et puis à Cuba. Cuba, Asbel Lopez, qui a été fortement secoué, non seulement la Havane, mais aussi la partie nord qui est très touristique. Que pouvez-vous nous dire sur ces ravages au moment où nous parlons?
Pour l'instant, le bilan des dommages causés par le passage d'Irma à Cuba est encore en cours d'évaluation. Au moins 10 personnes sont mortes. On sait que 13 des 15 provinces du pays ont été touchées. Ce que prédisent des ONG et des agences onusiennes, ce sont des mois délicats. Cuba aura besoin de l'aide internationale pour s'en sortir. Les provinces centrales de Camagüey, Ciego de Ávila et Villa Clara ont été les plus atteintes selon l'ONG Oxfam. Les trois secteurs les plus fragilisés sont l'agriculture, le tourisme et l'habitat.
Alors cet ouragan Irma a été le plus puissant dont l'œil est frappé directement Cuba depuis 1932. Les Cubains étaient-ils préparés pour faire face à un tel ouragan, Asbel?
Nous n'avons pas en ce moment tous les éléments pour répondre à cette question. En tout cas, pour bon nombre d'habitants de la Havane, les autorités n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. Les évacuations, par exemple, n'ont pas eu lieu. Notre correspondant à la Havane, Julio Batista, a interviewé une vieille dame qui vit depuis 54 ans dans la partie la plus basse de la capitale cubaine. Elle s'appelle Adelia Vargas.
En ningún momento aquí nadie ha venido a evacuar a nadie. Nosotros tuvimos que auxiliarnos por nuestros propios esfuerzos a ver cómo podíamos salir.
Que raconte cette femme?
Elle raconte que personne ne lui a demandé d'évacuer sa maison. Ils ont dû faire face tout seul à l'ouragan. Vous avez peut-être vu des photos de la Havane sous l'eau, très impressionnant. C'est un coup dur pour cette ville dont beaucoup d'immeubles sont près de s'effondrer.
Dans quelle proportion a été touché maintenant le secteur du tourisme?
Encore une fois, il n'y a pas de bilan exact, mais c'est déjà un fait que le nord de l'île a eu beaucoup de dommages. C'est une zone 100% touristique. C'est là où sont les cayos, el Cayo Santa María, par exemple. Le tourisme est l'activité économique numéro 1 de cette partie de l'île. Il y a aussi beaucoup de familles sans gaz ni électricité.
Dites-nous quand même, les cayos, c'est quoi?
C'est
une zone touristique,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est une partie touristique.
Peut-on prévoir des conséquences non seulement donc économiques, mais également politiques après ce passage d'Irma?
J'ai posé cette question à un spécialiste, en particulier si une catastrophe naturelle majeure comme celle-ci pouvait amener des changements à l'île, plus d'ouverture, éventuellement des manifestations. Il m'a répondu qu'il y a beaucoup de fantaisie autour de ce sujet. Pour lui, ce ne sont que des spéculations. En fait, les Cubains sont habitués à la précarité depuis plusieurs décennies. Après le passage d'Irma, cela va être encore plus dur, mais cela reste dans la continuité de ce qu'ils vivent depuis des années et des années.
Asbel López de la rédaction en espagnol de Radio Francia Internacional.
Muy bien, bravo Philippe.
Merci à vous.
RFI, Radio France Internationale.
À un an de l'élection présidentielle, le Brésil a encore vécu une semaine pour le moins agitée. En seulement quelques jours, l'ancien président Lula da Silva a été interrogé par un juge anticorruption. L'actuel président Michel Temer a fait l'objet, c'était hier, d'une nouvelle accusation de la part du parquet pour obstruction à la justice et participation à une organisation criminelle. Silvano Mendes, de la rédaction brésilienne, vous suivez bien évidemment cette affaire. Commençons par ce témoignage de Lula qui a été très médiatisé.
Oui, très médiatisé. C'est la deuxième fois que Lula est interrogé par le juge anticorruption Sergio Moro. Ce juge, on le rappelle, il est en charge d'une gigantesque affaire de financement illicite des partis politiques brésiliens par le biais des contrats surfacturés signés entre le groupe pétrolier national Petrobras et plusieurs prestataires du secteur de BTP. Eh bien, ce deuxième face-à-face entre Lula et Moro a été très suivi par les médias qui le voyaient presque comme une telenovela, vous savez, ces feuilletons latino-américains. D'ailleurs, il y a eu des extraits du témoignage de Lula qui ont été transmis par la chaîne de télévision Globo et bien évidemment relayé sur Internet. Dès le début de son témoignage, l'ex-président Lula, qui avait la possibilité de comparaître mais de garder le silence, a préféré parler. On l'écoute.
Dr. Moro, apesar de entender que o processo é ilegítimo e é injusto, eu pretendo falar.
Quel est son propos? Alors, il dit que même s'il considère que ce procès est injuste et illégitime, il préfère parler. Lula, il dit d'ailleurs qu'il est sans doute la personne qui veut le plus la vérité, que la vérité soit établie. Eh bien, pendant tout son témoignage, il a clamé son innocence. Il dit être victime d'une chasse aux sorcières. Il faut rappeler qu'au mois de juillet, l'ex-président Lula avait déjà été condamné à 9 ans et demi de prison, reconnu coupable d'avoir reçu un appartement triplex en guise de pot de vin.
Voilà pour Lula. Et deux jours plus tard, c'était au tour de l'actuel président du Brésil, Michel Temer, de faire l'objet d'une nouvelle accusation de la part du parquet de la justice.
Oui, cette fois-ci, Temer, qui avait déjà été accusé de corruption, donc En effet, ils sont tous un peu visés. Maintenant, il est accusé pour obstruction de la justice, à la justice et participation à une organisation criminelle. Selon le parquet, ce réseau de corruption aurait permis aux accusés, Temer et plusieurs de ses proches, de toucher plus de 150 millions d'euros de pots de vin. Temer y nie en bloc. La présidence, d'ailleurs, a réagi de manière assez violente en disant que ce sont des accusations absurdes et que la conduite du procureur général est irresponsable.
Et tout ça, je le disais tout à l'heure, à un an seulement de l'élection présidentielle.
Oui, c'est une élection, une pré-campagne qui avance dans un flou total. D'un côté, Temer n'annonce aucune intention de tenter une réélection, notamment en raison de ses taux de popularité très bas. En revanche, Lula, qui avait fini ses deux mandats avec des taux records de popularité, sillonne déjà le pays comme s'il était en campagne, et ce malgré cette condamnation à presque 10 ans de prison. Il apparaît même en tête des sondages pour la présidentielle, qui a lieu au mois d'octobre 2018, et est crédité de entre 30 et 42% des intentions de vote.
Rapidement, si jamais Lula est condamné en dernière instance, à quoi peut-on s'attendre?
Alors, bien évidemment, il ne peut pas être candidat, et là, on se retrouve avec trois noms qui apparaissent maintenant. Il y a d'un côté le représentant de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, de l'autre côté l'écologiste Marina Silva, et il y a aussi le maire de Sao Paulo, João Doria, qui apparaît avec une rhétorique anti-Lula, qui est très proche des marchés, très proche du monde des finances, et qui a été photographié avec Emmanuel Macron au début du mois, ici à Paris. Donc il fait déjà un peu sa campagne pour travailler son image à l'international.
Et bien évidemment, la rédaction brésilienne de RFI suit tout cela de très près. Autre crise politique, c'est au Cambodge, cette fois. À moins d'un an, alors là, d'une élection législative, pieds et mâmes, le Premier ministre Hun Sen donne l'impression de nettoyer le terrain afin d'assurer sa victoire pour un nouveau mandat. Le chef de l'opposition, Kem Sokha, en effet, a été arrêté au début du mois, accusé de trahison. Pizet, qu'est-ce qui lui est précisément reproché?
Oui, Philippe, Monsieur Kem Sokha, chef de l'opposition, a été arrêté le 3 septembre. Et cette arrestation se pose sur une vidéo diffusée la veille dans laquelle Monsieur Kem Sokha aurait dit qu'il planifie de renverser le pouvoir de Monsieur Hun Sen avec l'aide et le soutien des États-Unis. C'est cela le mobile des autorités. Le pouvoir considère l'information déclarée par Monsieur Kem Sokha comme une trahison et l'espionnage au profit d'un pays étranger. Nous allons écouter Monsieur Hun Sen.
Le Premier ministre cambodgien.
Oui, alors il a dit que il est inacceptable qu'un politicien collabore avec un gouvernement étranger pour renverser le pouvoir en place. C'est une trahison et cela doit être puni sévèrement par la loi. Donc M. Kem Sokha a été immédiatement envoyé dans une prison à l'est du Cambodge.
Il est en cours 15 à 30 ans de prison s'il est condamné. Comment expliquer que Kem Sokha ait pu faire cette déclaration?
Au fait, il s'agit incontestablement d'une vidéo montage. C'est la date de 2013, lorsqu'il a fait une réunion politique avec ses sympathisants en Australie. Il a en effet parlé de son parcours, son combat pour promouvoir la démocratie au Cambodge. C'est dans ce cadre qu'il a reçu le soutien de la part du gouvernement américain et certaines ONG américaines. Et donc le renversement politique dont il a parlé était en fait un changement du pouvoir par le biais des élections libres.
Et puis cette crise provoque autre chose, un face-à-face très tendu entre le gouvernement cambodgien et l'ambassade des États-Unis.
Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps entre août et septembre. Cela sonne presque comme une accélération ou une panique de la part du pouvoir de Monsieur Hun Sen. En août, le gouvernement a fermé deux ONG américaines très actives dans la promotion de la démocratie au Cambodge, donc en lien avec l'opposition. En même temps, le gouvernement a fermé le journal anglophone de Cambodia Daily en prétextant des sommes dues à la taxation envers l'État cambodgien.
Alors, que peuvent faire les Américains? Quelles mesures ils peuvent décider?
En fait, dans la foulée, les Américains ont décidé de ne plus accorder des visas aux hauts fonctionnaires cambodgiens travaillant au ministère des Affaires étrangères. Et donc, M. Hun Sen, pour rétorquer, il a décidé de suspendre l'accord bilatéral de recherche des dépouilles de soldats américains à l'époque de la guerre du Vietnam. Et pour finir, Hun Sen a soulevé la question des réfugiés cambodgiens condamnés à double peine par les tribunaux américains que les Américains ont expulsés vers le Cambodge. Donc le gouvernement de M. Hun Sen n'a pas manqué l'occasion de polémiquer sur des querelles historiques datant de la guerre du Vietnam.
Merci à vous, Pizet Mam, de la rédaction cambodgienne de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde. À la semaine prochaine. Avant cela, bien évidemment, un nouveau point sur l'actualité du monde.